présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Après-midi, il revoit le jeune garçon. Il est sur le trottoir. Il fait signe à Galien. Bonjour, bonjour. Galien traverse et va vers lui. Il lui demande. Ça va? Oui. Galien sort de sa poche un peu de monnaie et les lui tend. Tiens, c'est pas beaucoup, mais je ne peux pas t'en donner plus. Tu comprends? Si on voit que tu as de l'argent, cela risquerait de te créer des ennuis, et peut-être à moi aussi. Cache-le bien. Et je lui dis, merci, mais ça ne vaut pas la peine que je le cache, il ne surveille pas. Galien lui demande, tu veux boire quelque chose? Oui, je veux bien. Et Galien le mène vers un café. Ils s'assoient à une table. Le garçon vient. Galien demande, qu'est-ce que tu prends? Un coca. Un coca et moi un jus d'orange. Le garçon s'éloigne. Le jeune lui dit, pendant les vacances, j'étais chez ma grand-mère, à la campagne. Galien lui demande, c'était bien? Oui. Le jeune lui dit, avec les copains, on est allé casser des carcasses de voitures. Le serveur revient leur apporter leur boisson.
quelle heure énervée.
Tu aimes casser les voitures.
Tu es fatiguée.
Oui, c'est marrant.
Tu te reposes.
Tu as de la famille. Non, juste ma grand-mère et c'est pour ça que je suis au foyer. Ça te plaît le foyer?
J'ai mal dormi, c'est pas ça.
Bon, ça peut aller. Je termine son verre et lui dis.
Quand?
Faut que j'y aille.
Oh, s'il vous plaît.
Bien, comme tu voudras.
Un sandwich au gruyère.
Et ils sortent du café.
Un croque monsieur et une salade. Prends crudités variées, c'est bien. Ça ira comme ça, croque monsieur.
Laboratoire Jeune Tout, on a trouvé une bactérie qui a une falsification. Elle élimine la radioactivité. Oui, cela peut paraître étrange, mais je vous jure que c'est la vérité. Ça n'a pas été trouvé chez Jeune Tout, mais en vrai. Donc, il suffirait d'élever des bactéries sur les lieux où il y a de la radioactivité pour l'éliminer. Cela est un immense pas en avant, car l'énergie atomique n'est plus nuisible. Les déchets que l'on enterrait seraient déréactivés. On pourra faire de l'électricité avec du tout nucléaire. Adieu le pétrole, le fioul, le gaz, le charbon, toutes ces énergies chères et polluantes qui en plus donnent le cancer comme la cigarette. L'air resterait propre et sain. On va pouvoir faire des moteurs pour les voitures, camions, fusées, avions, bateaux, etc., etc., qui seront très économiques. Et les batteries atomiques dureront le temps de la voiture. Fini la panne d'essence, les encrassements. Les chaudières à chauffage atomique non polluantes. Et on pourra faire marcher quand on voudra. Les fusées atomiques, plus besoin de carburant polluant et coûteux pour les longs voyages qui pourront durer des années sans recharge. Fini l'argent dévalué à cause du prix du pétrole, du fioul ou du gaz. La France en cachette des autres pays, car elle veut être la première à être au tout atomique, décide de faire de l'élevage inter-intensif de ces bactéries. Le groupe Jeune Tout Bactérie, une immense usine pour cette affaire, qui est sous terre et ultra secrète. Le gouvernement nomme un ministre de l'énergie atomique, avec comme programme le tout atomique. Ce ministre, c'est l'éminent ingénieur Frédéric L., futur prix Nobel. La France lance un autre secret, top secret. Elle veut lancer une fusée sur la Lune pour y déposer de l'ADN humain, des bactéries oxygènes et des végétaux qui peuvent être capables de vivre dans les plus mauvaises conditions qui soient. Le projet est top secret car l'on risquerait de dire que la France cherche à s'emparer de la Lune comme elle l'a fait pour Dieu.
La fusée est partie pour la Lune avec des astronautes, des scientifiques et des bactéries. La fusée s'est déposée sur la Lune. Les ormes sont sortis en scaphandre avec des boîtes en métal. Ils font un carré avec du fil de fer et des bâtons pour délimiter le lieu de l'expérience. Puis déposent l'ADN humain au milieu de ce carré en le laissant dans les boîtes, mais en ouvrant les boîtes en métal. Puis, ils plantent les végétaux à terre. Ensuite, ils recouvrent de plastique. Et mettent les bactéries qui créent de l'oxygène. Ne ferment pas entièrement pour qu'une fois que les bactéries, les végétaux et l'ADN sont assez forts pour qu'ils puissent s'épanouir, s'éparpiller sur la Lune. Après avoir fait ce travail, ils posent une caméra pour la surveillance et des émetteurs capteurs à distance et s'en retournent sur Terre. Il faut voir maintenant ce que la nature toute seule peut faire. Pourra-t-elle être suffisamment forte pour pouvoir s'imposer sur la Lune, s'imposer et se multiplier et évoluer, changer, faire plusieurs espèces? Si rien ne change, faut-il y ajouter un corps à l'ADN? Quelle aventure recréer un monde avec rien? Des scientifiques surveillent de la Terre l'évolution de la chose. Il faudra peut-être des centaines d'années avant que quelque chose ne bouge et des milliers pour que la Lune change, devienne une Terre avec végétation, air, animaux, humains. Mais le jour où cela sera, ce sera grâce au génie français, le premier pays à créer la vie avec rien. En Afrique, les produits alimentaires pontois, biotechniques, plus riches de France, se vendent comme du tipin. Et dans les pays où on ne peut pas les acheter, ils sont offerts comme produits humanitaires plus de luxe. Tous ces produits ont un produit chimique qui est anti-immunitaire. Il agit comme le sida, mais mieux que le sida, car il est transmissible par les aliments, l'eau, et ne peut avoir aucune protection. Car une fois que le produit s'est introduit dans un pays, il s'évapore dans l'eau. Là, ce sera par l'intermédiaire de l'urine, les selles, ce qui va contaminer tout le continent africain. Aucun remède n'existe. La chose va se faire petit à petit, mais grâce à l'aide humanitaire, il prendra de plus en plus d'ampleur. Comme ça ressemble au sida, on dira que c'est le sida. Et puis, pour décontaminer le continent africain, que faut-il faire? On ne sait pas encore. On cherche une bactérie qui tuerait ce produit en le mangeant. Et cette bactérie serait aussi pour le sida. Ce qui fait qu'une chose horrible, criminelle, peut servir à sauver des milliers de gens qui ont le sida. Mais on aurait pu faire cette bactérie sans que l'on soit obligé de créer ce produit anti-humanitaire. Pendant ce temps, le continent africain va se vider de ses habitants et de ses animaux. Ce temps sur la Lune, l'oxygène, d'après les capteurs à distance, se stabilise et ne s'évapore pas. Elle reste dans son territoire délimité et protégée en partie par une bâche. Comme il y a des ouvertures, elle pourrait s'éloigner. Mais non, elle reste où elle est. Des plantes, qui sont des plantes qui n'ont besoin ni de terre, ni de presque pas d'eau, mais d'air, commence à se développer petit à petit. Mais elles prennent de drôles de formes et de couleurs. De couleurs très étranges. L'ADN semblait attiré par la plante. Il se tient vers elle et elle vers lui. La vie appelle la vie. Comment va faire une plante avec de l'ADN et l'ADN humain avec une plante? Les usines jeûnent tout en secret, l'on crée des chimères pour faire des travaux spécifiques, comme dans des endroits dangereux, en hauteur, en dessous, pour faire des soldats, des policiers, des sportifs. De toute façon, pour présenter la France, dans certains sports, on embauche des étrangers à des prix faramineux. Alors pourquoi ne pas les représenter avec des chimères? Ça coûterait moins cher. Pour laver les carreaux, sur les toits, on choisit des chimères oiseaux. Pour les soldats, des chimères loups. Pour la police, des chimères courues. Pour les sportifs, c'est souvent le sport. Ça va de la girafe au cheval. Ces chimères seront programmées pour un certain type de travail, pour un certain besoin de repos et sommeil, pour certaines nourritures et heures de repas, et pour n'obéir qu'à leur supérieur. Elles pourront se procréer entre elles, mais pas se mélanger entre espèces, car si on a prévu tant d'oiseaux, il n'en faut pas plus. Les chimères seront, par économie, herbivores, sauf pour certaines espèces qui seront combattantes pour leurs besoins de pulsions meurtrières. Il leur faudra qu'elles soient carnivores. Pour créer toutes ces nouvelles espèces, il faut des corps humains, frais et propres. Alors la nuit, des hommes à pied, en camionnette, sillonnent les rues des villes en quête de chair fraîche. Les nuits, des enfants et des adolescents font ce qu'ils appellent des nuits blanches. Ceci n'est pas nouveau. Balzac en a parlé dans son livre La Rabouilleuse. Ces enfants et ces adolescents, désœuvrés, passent la nuit dehors, en bande, et prennent la ville pour leur terrain de jeu. Ils cassent, volent, font de mauvaises farces, et au petit matin, se cachent pour dormir. Ces jeunes, qui pour la plupart sont des garçons, n'ont ni foi ni loi. Pour eux, la morale, ça n'existe pas. Ils n'ont qu'un seul but, le plaisir et la recherche d'argent, de sexe et autres. Pour eux, les adultes sont tous pareils, des êtres à profiter d'eux en leur demandant de l'argent, à manger, etc. mais ils n'ont aucun respect pour eux. Ils n'ont aucun sens de propriété. Ils prennent sans demander. Ils ne disent jamais merci. Cette génération asociale est due à la façon dont ils ont été éduqués. Très mal, merci. On leur a dit leurs droits sans leurs devoirs. La liberté sexuelle sans l'amour, la vie en couple sans le mariage, demander sans rien demander en échange, où tout leur est dû, etc., etc. Ce qui fait qu'avec ce genre d'éducation, les jeunes croient que le monde est à lui et qu'il lui suffit de demander ou prendre pour avoir ce dont il a besoin. Il n'a que des droits, aucun devoir. Il veut tout, mais ne fait rien pour avoir la chose. C'est aux autres à se payer la tâche. Il est contre le travail, mais veut une voiture, une chaîne ici. Du moment que ce n'est pas lui qui la fabrique. Car s'il est contre le travail, pour lui, il ne l'est pas pour les autres. Car il sait très bien que sans travail, il ne peut ni avoir de voiture, ni de chaîne ici. Vous allez me dire que ce comportement est dû au chômage, à la société, qui ne les aide pas à entrer dans la vie. Ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis ce n'est pas parce qu'on est au chômage qu'il faut croire qu'on peut faire n'importe quoi et se croire tout permis et qu'on a tous les droits. Cela voudrait dire que le chômeur, le jeune, serait comme les seigneurs au Moyen-Âge avec ses serfs pour les servir, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Non, on peut être pauvre, et cela n'empêche pas d'être honnête, poli, etc. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions. C'est tout pour les chômeurs qui avaient un emploi, mais les jeunes qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit au début, ce genre de jeunes existe depuis toujours. Chômage ou non, disait Balzac et les histoires du Moyen-Âge, par exemple. Non, cela fait partie du caractère de certains jeunes, de la liberté qu'on leur donne et de leur éducation. Donc, dans les villes, il y a de plus en plus de jeunes qui passent leur nuit dehors, prenant la ville pour un terrain de jeu et où tout est à eux. Ceci est une bonne aubaine lorsqu'on a de la chair fraîche à prendre pour prendre des organes, l'ADN, pour les chimères ou autres, et même pour les gens qui ont besoin d'organes de remplacement. Un enfant se promène dans une rue déserte. La voiture a foncé sur lui, ouvert la portière et le pousse dans la voiture. siège arrière, un homme lui met un coton de chlorofluor. Et la voiture file en dehors de la ville. La voiture s'est arrêtée devant le laboratoire secret Genetou, qui se trouve à l'intérieur d'une vieille maison bourgeoise au fond d'un parc. Le chauffeur sort de voiture pour appuyer sur l'interphone et dit « Les sept soleils !» Le portail s'ouvre. Est entrée dans la propriété, une immense propriété. La voiture s'est arrêtée devant le perron. L'homme sort de voiture, l'autre porte l'enfant dans ses bras. Un homme en blouse blanche, grand, mince, des cheveux abondants, barbe et barbe blanche, dans les 55 ans, leur demande « Qu'est-ce ? Un petit, c'est une commande pour les poumons du ministre de la Défense, du... bien, déshabillez-le et à la salle d'opération. » Et les deux hommes emmènent l'enfant endormi dans une pièce pour le déshabiller et le laver. Pendant ce temps, l'homme à cheveux et barbe blanche va dans son bureau. Bureau Louis XV. Il s'assoit pour téléphoner. Allô ? Oui, c'est moi. Oui. C'est pour vous dire que le poumon que vous avez demandé, oui, l'enfant, sera prêt dans une heure. Préparez le petit pour recevoir le nouveau poumon. Oui, le 503, bien. Non, nous n'avons pas encore trouvé le corps d'adulte. Mais oui, nous sillonnons la ville avec tous ces DSDF. Cela va être facile à en trouver. Oui, je sais. Il ne faut pas de corps de femme. Mais ce sera fait cette nuit. Oui, oui, il y a tellement de gens qui traînent. C'est comme au supermarché, il suffit de nous demander pour avoir. Le système ADN, pour refaire les organes, c'est plus cher, oui, du luxe. Il faut du temps pour que l'ADN puisse refaire l'organe. Là, c'est plus simple. On fait un tour en ville, on choisit et voilà. Oui, à bientôt, cher ami. Oui, oui, je sais, les yeux bleus, mais cela devient rare. Nous verrons. Au revoir. Et il sort de son bureau.
va aller dans la salle d'opération. L'enfant est déjà sur la table et les infirmières médecins sont prêts. On l'habille.
L'un des médecins lui demande « Que faisons-nous ? » ?»« Nous lui mettons un autre poumon ou on le découpe et le mettons dans le frigo, tous ses organes, en attendant d'autres commandes. » Le médecin-chef lui demande « Comment est-il physiquement ? » ?»« Bon état, malgré la rue et la mauvaise nourriture, genre McDo. » Le médecin-chef lui dit « Alors on découpe tout. Cela nous fera de l'avance pour les nouvelles commandes. » Quel âge a-t-il à peu près ? 12 ans. Bon âge. Allons-y.
Ils ouvrent le corps de part en part, prennent les organes qui sont mis dans des boîtes métal pour être congelés. Puis, l'on prend les yeux, le cerveau, l'ADN. Le sang est récupéré. La moelle des os aussi. Une fois que tout est fini, la carcasse est menée dans une machine qui la broie en morceaux et sera mise dans une machine pour parfumer ces morceaux et vendue pour les chiens. Malgré la préparation et le goût, le chien prend goût à la chair humaine. Il y a de plus en plus d'attaques et blessures de chiens contre les hommes. Ils aiment de plus en plus la chair humaine. Cette opération est une opération presque de routine, qui se fait presque à la chaîne. Les gens, les médecins qui travaillent là-dedans ne se rendent même pas compte qu'ils travaillent avec de la chair humaine. C'est un dépeçage comme à l'abattoir. Comme les enfants sont la plupart du temps en groupe, on les prend en groupe. Un homme vient vers eux, sympathise et les invite chez lui. Là, il les fait boire un somnifère, les enferme dans une pièce. Et un camion vient les prendre.
quelquefois, il faut des filles ou des femmes. Là, c'est plus difficile car la nuit, les femmes se cachent. Elles ont peur. Alors, il faut prendre des putes qui font ça sur le rebord des routes. Une fille attend le bus. Une belle voiture rouge décapotable, un homme d'un 25 ans, grand, mince, châtain, costume beige. Il regarde la fille, taille moyenne, mince, cheveux roux, un père plastique rouge. Elle mâchouille un chewing-gum. L'homme lui dit, il y a la grève des cars, tu sais. Elle sourit et lui dit, je ne savais pas. Je peux, si tu veux, te raccompagner. Ça te va? Oui, je veux bien. Il ouvre la portière, elle entre. Elle file à vive allure. Elle se dit, avec la voiture qu'il a, il doit être plein de fric. Il lui demande, où allons-nous? Elle lui dit, Montparnasse. Il lui dit, bon, avant, je vais essayer la voiture sur l'autoroute. Ça ne te gêne pas? Non, pas du tout. Et elle sourit bêtement. La voiture file, 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 file. Tout à coup, il s'est arrêté devant une propriété qui se trouve dans une petite rue tranquille. Il lui dit, « Vous permettez, je vais dire bonjour à ma grand-mère. » Elle regarde le portail de la maison. « Elle habite là, votre grand-mère ?»« Oui, depuis qu'on l'a chassée de Versailles, ma famille habite ici. Vous descendez avec moi ? Elle va vous offrir un verre. » Elle sort de voiture, lui aussi. Il appuie sur l'interphone et dit « Les sept soleils ». La porte s'ouvre. Il entre dans la voiture. Et la voiture va jusqu'à la maison en suivant le parc. La fille se sent fléchir. Elle a l'impression de devenir l'héroïne de romans d'Arlequin qu'elle aime tant. Quoique maintenant, ils ont changé les décors. Et les princes? Cela se passe dans des sociétés à ordinateur et les princes sont PDG. Mais elle, elle aime mieux les anciens romans dans les châteaux et tout. Elle est romanesque, la fille. Elle se dit, quand mes copines vont savoir ce qui m'est arrivé, un beau mec avec une voiture comme ça, qui m'invite chez sa mémé, prendre le thé dans une maison, c'est presque un château. Elle suit le beau prince. Elle se prend pour Diana. Le beau prince va sonner à la porte. La porte est ouverte. Un homme à bouche blanche, barbe et cheveux blancs. Elle se dit, tiens, c'est le domestique. Il doit faire le ménage.
ou l'infirmier de la bonne vieille mémé.
Ils sont entrés.
Une fois que la porte est fermée, le beau prince dit
« Je vous amène le corps de la princesse. »
« Merci. C'est tout à fait ce qu'il nous fallait. Mademoiselle, si vous désirez me suivre. »
Elle suit l'homme en blouse blanche et voit que le prince ne la suit pas.
Il veut sûrement que la mémé me voie seule. Comment il a dit déjà ?
Le corps de la princesse. Doit être un truc chic, comme l'on parle dans les palais.
Elle regarde le couloir et dit
« Ce n'est pas très chic, en soirée dans un hôpital. »
L'homme a ouvert une porte, entrée. Elle entre. Une pièce avec un porte-manteau. L'homme lui dit « Déshabillez-vous et prenez une bonne douche. » Elle lui dit « Mais je ne suis pas sale, moi. » « Il le faut. Si vous ne le faites pas par vous-même, je vais vous aider à vous déshabiller. Drôle de maison. »
Elle se déshabille.
Va dans la cabine à douche.
Et elle se douche.
Elle sort de la cabine à douche.
Il lui dit, pas la peine de vous habiller, venez.
Elle lui dit, je suis tombée dans un bordel, je veux m'en aller.
Vous ne pouvez pas.
Elle va vers la porte de la sortie. Il la rattrape. Vous, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Alors continuez. Venez, entrez. La faire entrer
dans une salle d'opération avec infirmière et tout.
Elle lui dit, mais je ne suis pas malade.
L'homme lui dit,
nous y comptons bien, c'est pour la princesse de...
Mais quoi?
Vous êtes le corps de la princesse qu'on va lui donner.
Mais je ne veux pas, j'ai besoin de mon corps, moi.
Plus, puisqu'on va vous mettre en bouillie pour la porter pour chien.
Elle veut sortir, on lui barre la route.
Par derrière, un homme lui fait une piqûre. Une piqûre dans le dos.
Elle vacille. On la maintient.
Et on la dépose sur la table d'opération.
Jusqu'à 10. Allez. Elle se dit,
je ne veux pas être transformée en pâté pour chien. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Puis,
elle perd connaissance. Et
l'on s'affaire autour d'elle.
Le grand médecin demande.
On a prévenu la princesse pour le corps.
Oui, tout a été prêt. L'hélicoptère est prêt. À décoller aussi.
Et elle, qu'est-ce qu'on en fait ?
il portait pour chien. Elle entend tout ça, mais ne peut ni bouger ni parler. Il portait pour chien jeune tout, le meilleur parté qui soit.